Mais c'est quoi ce cirque ?
Mais c'est le festival.
Quel festival ?
Le Festival International du Premier Film d'Annonay.
Le Festival International du Premier Film d'Annonay ?
Mais oui !
Allez, tous en scène !
On y va !
C'est parti !
En piste ! Anna-Rita Zambrano, vous êtes une réalisatrice italienne, vous venez de Rome, mais vous vivez en France, à Paris. Vous êtes ici cette semaine à Annonay, dans le cadre du Festival International du Premier Film, pour présenter votre premier long métrage qui s'intitule « Après la guerre ». Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci de me recevoir à Annonay.
Alors, nous enregistrons cette interview aujourd'hui lundi à 17h30 et votre film, lui, il est diffusé au Théâtre d'Annonay juste après, à 18h45. Mais ce film, il a déjà beaucoup voyagé avant d'arriver au théâtre.
Oui, donc je vous disais que je l'ai présenté en avant-première mondiale, donc cette année, bon l'année dernière en fait en 2017 au Festival de Cannes, dans la section Un certain regard, et après il a voyagé et aux États-Unis, au Brésil, beaucoup en France, et ben, voilà, maintenant je suis arrivée ici.
Alors avant de parler du film lui-même, j'aimerais parler un peu de vous, de votre vie de réalisatrice. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages avant de réaliser ce premier long-métrage. Quel est votre parcours ? Comment arrive-t-on à son premier long-métrage ?
Moi, j'ai un parcours assez atypique, du moment que je viens pas du tout du cinéma. Ça veut dire, je viens plutôt d'un milieu académique universitaire. Donc, à la base, je suis professeure de grec ancien. Mmh. Voilà. Donc, je me suis rapprochée à la linguistique après avoir fait du grec ancien. J'ai eu la chance de faire un doctorat à Paris, un doctorat en linguistique, justement, sous la narratologie appliquée au cinéma. Et donc, justement, à travers la linguistique et la narratologie, je suis arrivée justement au cinéma. Donc, c'est vrai, c'est un parcours un peu atypique. Et en même temps, le grec ancien et la tragédie n'est pas si loin du cinéma. Donc, c'était mon rêve de faire du cinéma depuis que j'avais commencé à étudier du grec. Ça paraît bizarre, mais en fait, c'est un peu ce que ça m'est arrivé. Mais je n'avais pas fait d'école technique.
Oui.
Donc, j'ai tourné 10 courts-métrages pour pouvoir apprendre ce qui me paraissait très difficile. Et en fait, à la fin, ben, il était effectivement difficile. Et voilà, donc j'ai tourné, donc j'ai arrêté d'enseigner, j'ai commencé à tourner. Et j'ai tourné donc 10 courts-métrages et un documentaire sous le guépard de Visconti avant de tourner après la guerre. Voilà, donc ça a été un parcours assez long, mais très intéressant.
Donc un parcours fait de moments de passage, le passage de l'enseignement à la transmission par l'image, puis des transmissions courtes à une transmission longue.
Oui, oui, si on peut dire ça. Après, c'est sûr que c'est la transmission. Mais même mon film, il parle de transmission. Donc, du coup, oui, c'est vrai. La transmission, c'est le mot clé.
Il y a quelque chose qui est très fort au Festival international du premier film d'Annonay, c'est les liens entre les bénévoles, les amateurs, les jeunes réalisateurs, réalisatrices et les professionnels qui ont beaucoup de carrière, beaucoup de bagages. Vous avez connu ce moment où on passe d'amateur ou de passionné de cinéma à premier film, premier court-métrage. Vous avez un souvenir de ce moment-là ?
Je vous raconte une histoire un peu drôle. Mmh. Donc, en fait, je suis allée au Festival de Cannes pour la première fois de ma vie en 2002.
Oui.
J'avais un accrèd Cannes cinéphile. J'étais arrivée à l'avoir et j'étais très, très, très heureuse de l'avoir eue parce que ce n'était pas facile non plus de l'avoir. Donc, les projections de Cannes cinéphile, elles se passent à la Bocca. Non, à la Lucorne, qui est à Cannes-la-Bocca. Voilà, donc un petit, disons, fraction de Cannes, loin de la Croisette, loin des paillettes, loin de tout. Donc il y a souvent des habitants de Cannes, bon, qui ne sont pas tout à fait très jeunes, mais bon, voilà, sont très, très, très motivés, très coriaces, vraiment, sous le cinéma. Et il y a des étudiants, voilà. Donc en gros, il y a des habitants de Cannes et des étudiants. Et donc moi, je pensais que Cannes, c'était ça. Je comprenais pas pourquoi j'avais amené mon enveloppe de soir. Je pensais qu'en fait, et on faisait la queue, on rentrait, on sortait. Et donc là, j'ai fait connaissance avec ce qu'ils sont restés deux amis chers, dont l'un il est devenu musicologue et l'autre il est devenu médecin. Et un jour, on a découvert la Croisette, on est allé sur la Croisette et on a compris que pour rentrer dans les salles, il fallait mettre des... On pouvait pas rentrer parce qu'on n'avait pas les billets pour rentrer dans la grande salle. Il fallait avoir un panneau avec écrit « Place, s'il vous plaît ».
Oui.
Et donc, ben, moi, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de photos de moi qui demandent en 2012 des places pour les frères Cohen. Et après cette année, avec Thomas, avec ses deux amis, en fait, on est revenus sous la terrasse parce que mon film était sélectionné. Donc, c'était moi que je les avais accrédités cette fois-là. Et on s'est souvenu de ce moment. Et donc, du coup, moi, je donne toujours les places quand je vais à Cannes. Je donne toujours les places pour les cinéphiles qui sont là. Pour moi, ça a été très important, en fait, de commencer comme ça. Et c'est beau. Je trouve que c'est une jolie histoire, en fait, le fait d'avoir commencé vraiment de cinéphile et du tout bas. Et de toute façon, après, on reste toujours petit. Hein, c'est, voilà.
Mais ça fait écho à ce que vous disiez juste avant. C'est-à-dire qu'on fait 10 courts-métrages et c'est toujours difficile. On apprend, vous avez appris sur le tas, vous avez appris en faisant.
Mais même les grands réalisateurs, ils continuent à apprendre. Moi, je dis, même à Cannes, j'ai eu la chance de rencontrer des réalisateurs immenses comme Munju, James Gray, ils sont là-bas dans une humilité immense. Et moi, ça me touche parce que moi, j'adore tout ce qu'ils font. Et en fait, eux, ils me disent, ah oui, c'est super parce que moi, j'aime pas du tout ce que je fais. Donc, c'est quand même, il faut une prétention pour faire du cinéma de ces certaines manières parce qu'on prétend, entre guillemets, que quelqu'un nous donne l'argent pour exprimer c'est que c'est nos désirs et notre vision du monde. Donc ça, c'est effectivement une espèce de prétention. Et en même temps, il faut une énorme humilité parce que comme les gens nous donnent cette confiance, ils peuvent nous la lever à tout moment. Et surtout, si on n'arrive pas quand même à transmettre et aussi à vendre
oui.
cette vision, parce qu'après, on peut la transmettre, mais on doit aussi la vendre parce que le cinéma reste aussi un business. Du coup, on revient en arrière et tout oui. est fini. Donc, oui. voilà.
Vous avez évoqué Christian Munju, hein, qui est lui aussi venu présenter son premier film un jour à Annonay, il y a quelques années de ça. Donc, on vous souhaite déjà autant de réussite que lui. Et puis, vous parlez du business autour du cinéma. Vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de la carte blanche à la Fondation GAN.
Oui.
Donc, c'est, pour le dire rapidement, une fondation qui a 30 ans, qui a été créée entre les assureurs GAN et la Cinémathèque française, dont le président Costa Gavras voulait encourager les jeunes réalisateurs et réalisatrices. Comment s'est déroulée la construction de votre film? Quel rôle a joué la Fondation et d'autres financeurs dans la production de ce premier long métrage?
Donc, la Fondation GAN, effectivement, elle est intervenue assez tôt, comme dans tous les films, bien amont du tournage. Pour moi, c'était un grand privilège parce que je disais à Dominique Hoff et de la Fondation GAN justement que La vie de Jésus de Bruno Dumont, ça avait été un de mes films préférés. Et je pouvais pas croire. J'avais vu ce film quand j'étais à Rome et encore, j'étudiais pas du cinéma et ça avait été un choc immense pour moi de voir ce film et l'idée de partager ce même financement moral, entre guillemets. Ça m'a énormément touchée et m'a rendue fière. Bien sûr, les financements ne sont pas faciles. Ça dépend du milieu d'où on vient et ça dépend du parcours qu'on a. Pour moi, que je venais pas d'une famille de cinéma, soit d'amitié, soit de sang, c'était difficile. Moi, ça veut dire, ce que je pouvais faire, c'est essayer de faire un peu le chemin de croix. On l'appelle comme ça entre réalisateurs de financement public. Donc, avant sous recette, Fondation GAN, ça veut dire cinéma de qualité. Le cinéma de qualité est aidé par ces gens. Donc alors déjà tu commences à te dire waouh, est-ce que mon film il va être un film de qualité?
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça c'est eux qui le décrètent. Donc, mais ça, c'est un bien, un mal. Je sais pas comment vous expliquer. Après, on va pas rentrer dans la polémique et je vais pas cracher dans l'assiette où je mange. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le cinéma général, moi, je suis aussi très cinéphile. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux tendances qui se sont créées. Donc, une tendance, c'est une tendance de cinéma de festival. Donc, de plus en plus, les festivals deviennent aussi producteurs avec les différents, les subventions, les forums. Je suis un peu. Il y a les labels. Par exemple, il y a Sundance, il y a l'écriture de Sundance.
Les prix.
Non, c'est pas du tout des prix. En fait, c'est des suivis pendant l'écriture, en fait. Donc, il y a le Touran Film Lab.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'en fait, t'es suivi pendant l'écriture.
Ouais.
Il y a Sundance en écriture. Il y a Cannes, bien évidemment, avec la résidence.
Ouais.
Il y a Berlin, qui donne de l'argent. Tout ça se fait en écriture.
Okay. En amont de la production.
En amont. Donc, en fait, c'est comme c'est les festivals. festival, en quelque manière, elle devient déjà producteur, oui, dans quelque manière. Et après, donc, du coup, tout ça, en fait, crée un filon.
Oui.
Créer un filon sous des sujets qui sont intéressants, pas intéressants. Voilà. Et tous ces filons-là, ils sont créés dans le cinéma pur d'auteur, pur, oui, cinéma de festival. Après, il y a, à côté, il y a Hollywood et tout ce que c'est, les grandes productions très financées par les chaînes, oui, qu'ils ont un autre créneau. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Paradoxalement, on se dit tous que dans le milieu festival, ça va être, oui, plus libre.
Oui.
Est-ce que c'est vrai?
Oui.
Et paradoxalement, je me dis parfois, en fait, avec les financements, je dis privés de Hollywood, ça peut sortir, par exemple, un petit film à, oui, 2 millions, qu'il peut avoir quelque chose de différent. Voilà, moi je dis juste, il faut qu'on fasse attention, nous les réalisateurs, parce que même si on pense de faire un chemin libre, à la fin, entre tous ces financements de cinéma, entre guillemets, de qualité, ils nous disent aussi, et ils nous imposent aussi, des sujets dans l'air du temps.
Et aussi, il peut-être qu'il y a aussi une représentation chez les réalisateurs, les réalisatrices, de ce qui est attendu par,
mais complètement,
par ce type de financement et ce type de dispositif d'accompagnement, d'aller au-delà peut-être de la demande.
Là, à ce moment, ça va, bien évidemment, les films de femmes sous des femmes fortes.
Oui.
C'est assez... je ne sais même pas comment qualifier de ça, parce que voilà, j'entends les professionnels qui disent « Ah mais oui, si tu as un film avec un personnage féminin fort, à ce moment, c'est super. Mm. » Voilà. Donc, après, il y a, c'est des modes. Et il y a bien évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de cinéma de genre qui est à la mode. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste qu'il faut faire très attention à ne pas se formater dans ces filons de cinéma d'auteur. Parce que c'est un paradoxe. C'est complètement un contresens. C'est, voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est intéressant. Juste, il faut qu'on fasse attention, parce que quand on n'a pas des grands financements, on est obligé de faire ce parcours-là et on doit garder cette une autonomie. C'est très important.
Il y a aussi, du coup, la nécessité d'avoir conscience d'un certain nombre d'attentes et d'un certain nombre de choses qui peuvent plaire aux financeurs pour que le financeur accepte et en même temps garder sa marge.
Ça a toujours existé.
Voilà.
Plaire aux financeurs, ça a toujours existé. C'est normal. Ouais. Ça veut dire le film, il doit faire des entrées, c'est normal. La question, c'est de plaire à des organismes culturels ou des organismes, en fait, intellectuels, que décrètent, entre guillemets, que ton film, il est intéressant pour la société en ce moment.
Et de qualité.
Et de qualité. Mmh. Donc, c'est bien, mais vraiment, il faut faire très attention, parce que on va aussi se auto-formater un cinéma de festival. Et ça, c'est pas un bien non plus. Comment c'est pas un bien qu'il y a le cinéma commercial? Voilà, on va créer des circuits différents. Et c'est déjà le cas, parce qu'il y a des films de cinéma de festival, de circuits de festival, qui déjà, ils ont beaucoup de mal à sortir en salle, mais ça accepte parce que c'est devenu un nouveau circuit. Voilà. Donc, c'est en train de se passer, pas seulement en France, mais dans le monde entier.
C'est très intéressant ce que vous racontez. Et on sent très bien la tension que vous décrivez. C'est vraiment clair. Alors, du coup, vous, pour passer du court métrage, vous en avez écrit et réalisé 10, vous m'avez dit,
oui,
au long métrage. Alors, vous avez des courts métrages qui ont été sélectionnés, récompensés dans différents festivals en Europe, Cannes, Venise, Berlin, j'ai vu ça. Donc, vous aviez du crédit vous étiez crédible aux yeux des personnes qui vous ont accompagné dans la réalisation de ce long métrage. Autrement dit, c'est important de faire des courts métrages avant de se lancer dans un long métrage.
Ça dépend de la personnalité du réalisateur. Moi, je sentais que j'en avais besoin. Je connais des réalisateurs qui ont fait un court-métrage et ils sont passés à leur long-métrage sans aucun problème. Ça dépend vraiment de la confiance personnelle qu'on a en soi. Truffaut, il disait que c'était pas difficile d'utiliser une caméra. C'était comme une fourchette une fois que le scénario avait été écrit. Mm-hmm. Moi, j'étais pas d'accord, mais pas parce que je suis pas d'accord avec lui, mais parce que pour moi, c'était pas possible. Mais je pense que l'importance, c'est d'avoir un rapport profond avec la nécessité qu'on a. Je pense qu'il n'existe pas d'idée aujourd'hui. Genre, bien évidemment, elles existent, mais l'idée, c'est quelque chose. Mais la nécessité, c'est une autre chose. Je pense que pour faire un long métrage, la différence entre un court métrage et un long métrage, c'est que le court métrage, il peut être très souvent porté par une idée. Bien évidemment, aussi le long métrage. Mais dans le long métrage, l'idée tout seul ne suffit pas. Il faut une nécessité profonde qui fait que l'auteur accompagne son film pendant plusieurs années et aussi pendant la période difficile du tournage, etc., et les financements et tout ce que c'est le chemin difficile de la création d'un long métrage. Donc il faut une profonde nécessité.
Ce que vous dites, c'est qu'on est plus prêt, ou en tout cas vous, vous êtes plus prêt à vous dépasser et à traverser ce chemin du combattant qu'est la réalisation d'un film pour quelque chose de plus profond que la seule idée qu'il y a dans le film.
Si, plus que profond, c'est vraiment une nécessité personnelle. Moi, je savais qu'est-ce que c'était la mienne. Après, je connais d'autres réalisateurs qui ont des nécessités, qu'elles sont tout à fait personnelles, c'est les leurs. Et en même temps, je sens cet élan nécessaire qui leur permet d'affronter cette épreuve du premier long métrage. Oui.
Ce film, Après la guerre, de quoi il parle?
Donc, c'est l'histoire d'un ex-militant d'extrême gauche italien qui est réfugié en France depuis 20 ans grâce à la doctrine Mitterrand. Donc, Mitterrand avait permis aux anciens militants de gauche de se réfugier ici en France à partir de 1985. Et à cause d'un meurtre qui se vérifie en Italie en 2002, il se retrouve confronté à son passé et il est obligé de prendre la fuite avec sa fille. Et il décide aussi de faire une guerre médiatique pour se défendre, en entraînant avec lui, en fait, toute sa famille qui est restée en Italie. C'est un film sur la culpabilité, c'est un film justement sur la transmission de la culpabilité. Si quelqu'un ne paye pas, qui paye à sa place? Moi, en fait, c'était ça ma nécessité. Oui. Ma nécessité basique, de base, c'était discuter et de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe quand il y a une blessure dans un pays. Nous, en Italie, on a eu cette blessure que c'était le terrorisme de gauche, comme vous et comme nous, parce qu'aujourd'hui, je me sens aussi quand même un peu française. En ce moment, on affronte un autre type de terrorisme. Voilà, la France, elle a eu le choc, la blessure de l'Algérie. C'est des blessures qu'elles vont rester pendant des années et des années dans la mémoire des gens. Comment on les affronte vis-à-vis de la culpabilité et qui paye si quelqu'un ne paye pas? Bien évidemment, pas tous on peut payer. Et d'ailleurs, il y a des gens... Et la culpabilité se transforme parce qu'on s'attend toujours que les coupables payent de la même monnaie qu'ils ont perpétré l'acte. Oui. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ça veut dire ces actes se transforment, la culpabilité se transforme. J'imagine que les gens qu'ils meurent en ce moment, malheureusement en France, dû par une haine qui était grandissante, qu'elle a grandi par des erreurs et par une politique et par une folie en fait qui a pris plus d'ampleur, ne connaissaient pas les décisions qu'elles étaient prises il y a 20, 30 ans vis-à-vis de l'immigration et qui a généré toute cette haine. Je dis pas que c'est c'est juste j'observe, je suis une observatrice et j'ai vu ça en France comme en Italie, les gens n'arrivaient pas à comprendre de qui ils étaient les enfants, ces gens d'extrême gauche qui à un moment donné ils s'étaient armés, ils disaient non, c'est pas nos enfants. Bon, ça doit être forcément les enfants de quelqu'un parce que c'était une réflexion sur ça.
C'est la question de l'héritage.
La question de l'héritage, la question de la culpabilité. C'était une tragédie, en fait. Moi, je voulais construire ce film alors que je viens du grec, bien évidemment du grec. Hein. De mon univers, il est assez tragique. Voilà, l'idée, c'était de construire justement une tragédie. Et dans l'élément tragique, en fait, dans la tragédie, dans l'élément tragique pur, il y a toujours quelque chose d'autoconflictuel, hein, en fait. C'est comme si c'est une cellule, quand on parle de tragédie, on parle toujours d'une cellule qu'elle est divisée à moitié. C'est un autoconflit et ce autoconflit, il est interne déjà à l'élément tragique et aussi au personnage même. Donc, par exemple, le personnage du tragique, il est très souvent au courant. Il est très conscient, il n'est pas inconscient. Et c'est justement cette conscience qui le plonge dans un état de peur, de frustration, de culpabilité. Et il y a aussi dans la tragédie, et comme dans mon film, il y a des points de vue qui sont plus pluriel et qu'ils sont inconciliables. Oui. C'est pour ça que, en fait, voilà, l'élément tragique, il est pluriel et inconciliable. Pourquoi, par exemple, dans mon film, on parle de deux positions politiques qui sont inconciliables. C'est comme si aujourd'hui, on parle avec un garçon qui a des idées de faire la djihad. C'est inconciliable. C'est impossible de comprendre et de décrypter un fil commun. Voilà, et c'est ça en fait qui rend le tragique tragique. et en même temps, il n'y a pas de, comment on dit, des dimensions didactiques. Et pourquoi ? Parce qu'il y a ces deux positions, et ces deux positions,
elles ne dialoguent pas.
Elles ne dialoguent pas, et donc ces deux positions qui sont sous la table. Et à la fin de tout ça, ce qui reste, c'est le fait que l'homme, il est mortel. Et c'est la fragilité de l'homme, en fait. À la fin de tout ça, de ces deux positions inconciliables, ça reste que l'homme est mortel. Et voilà, si on peut parler de quelque chose de didactique, c'est juste ça. Oui. Mais il n'y aura pas une des deux positions qu'ils vont avoir raison l'un sous l'autre, parce que c'est pas la fonction de la tragédie, n'est pas éthique, mais cathartique.
En attendant de mourir, il va falloir en faire quelque chose de ces deux positions inconciliables.
Et dans mon film, voilà, moi j'affronte ces deux positions inconciliables. Ça veut dire quelqu'un qui a fait un choix de prendre les armes, de combattre un État qu'il ne reconnaît pas, et les gens qu'ils disent qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, et qu'aujourd'hui, de revenir en Italie à payer une perpétuité et se faire condamner par un État que lui, il ne reconnaît pas.
Bien sûr. Voilà. Nous sommes toujours avec Anarita Zambrano au Festival international du premier film à Annonay. Anarita Zambrano, vous venez présenter votre premier long métrage aujourd'hui, lundi 5 février, et il s'intitule « Après la guerre ». Dans ce film, il est question donc d'un ancien militant d'extrême gauche italien qui a été confronté à des formes de violence par son passé. La thématique du militantisme, de la violence politique, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur particulièrement ?
Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, j'avais un double regard en fait sur cette histoire, parce que j'étais jeune, très jeune, même enfant, quand en Italie il y a eu le terrorisme, et après il y a beaucoup de gens qui sont passés donc en France grâce à la doctrine Mitterrand, donc grâce à cette parole que Mitterrand a donnée et cet asile politique qui a permis à plein d'ex-militants d'extrême gauche de se réfugier en France, et en étant arrivé moi aussi en France après à un âge adulte, en fait, j'ai pu regarder cette histoire des deux côtés, et c'était assez intéressant parce que en Italie, bien évidemment, c'est comme quand je vous disais que voilà, dans la tragédie il y a quelque chose d'inconciliable, bien évidemment en Italie il n'y a pas une grande compréhension de ça, hein. C'est très difficile en fait quand un pays démocratique vient t'expliquer qu'il est plus démocratique que toi, parce que l'Italie ça reste quand même un pays démocratique et des tribunaux démocratiques ont condamné ces gens pour des crimes commis en Italie. Or, c'est vrai que la France, elle a c'est une terre d'accueil différente. Et c'est vrai que la France, à l'époque, au moins c'est ce que j'ai découvert justement en faisant ce film, avait plein de dérives subversives aussi, en ce moment particulier des années 80, où en fait, toute cette, comment on dit, vague d'extrême gauche traversait l'Europe entière et pas seulement la France. Donc, et c'est vrai que ce passage de centaines, dont on parle de 3000 ex-militants de gauche qui passent en France, avec des crimes plus ou moins graves, hein, parce qu'on ne va pas non plus tous les rendre coupables, ça représentait aussi un danger sur le territoire français. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as rien à perdre, tu te réorganises, tu continues ta lutte, et si tu as quelque chose à gagner, ça veut dire un peu de liberté, te refaire une vie, tu n'as pas intérêt en fait, à continuer ta guerre. Donc en fait, en gros, Mitterrand a décidé de donner une deuxième chance à ces gens-là aussi pour ne pas les faire réorganiser sur le territoire national, et de ne pas les faire se retrouver avec des gens français parce qu'elles avaient ces mêmes idées. Or, il a fait peut-être le bon choix pour la France, mais il a sûrement pas fait le bon choix pour l'Italie. C'est-à-dire que c'est comme si nous aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui l'Italie décrétait que des terroristes n'étaient pas bien traités en France, et donc du coup il décide. Voilà, c'est assez difficile en fait. C'est comme, voilà, je parle toujours des tragédies, c'est comme Créonte et Antigone, il y a des raisons politiques en fait qui pousse les gens à prendre des décisions. Et il y a des raisons humaines qui restent difficiles à comprendre. Politiquement, moi, je peux comprendre cette décision. Humainement, pour les gens qui sont restés avec des délits, des parents, des familiers, avec voilà, une tradition de la violence, du sang, c'est difficile de comprendre que les assassins de leurs parents vivent libres en France.
Et on refait leur vie.
En enseignant à l'université, en écrivant des articles sous des journaux. Mais je dis ça parce que, par exemple, il y a une certaine presse de gauche qui dit que je suis de droite. Genre, c'est assez ridicule. Ça veut dire, OK, ce film, c'est un film de gauche, de droite. Alors qu'en Italie, tous les journaux de droite, de gauche, bien évidemment, ils ont complètement compris le film. Et Nanni Moretti, qui m'a sélectionné dans son festival, m'appuie complètement. Et c'est absurde. C'est une espèce de gauche caviar qui continue à être d'accord sur certaines choses sans connaître l'histoire. C'est absurde. C'est, au contraire, la gauche a été très, très maltraitée, justement, par la décision de cette typologie des gens. Parce qu'en fait, malheureusement, la violence d'extrême gauche en Italie a pris en otage toute une certaine gauche, qu'elle n'était pas violente du tout. Et moi, l'idée qu'en fait, le personnage principal, c'est un personnage assez charismatique, c'est pas un personnage, on peut l'appeler positif ou négatif, mais c'est sûr que c'est pas un personnage où il y a une identification totale, parce que c'est un personnage tragique, justement, où il y a en lui une dichotomie, il y a en lui une contradiction, donc c'est difficile à accepter, en fait. Et moi, je voulais justement explorer cette contradiction. Je voulais pas faire un film en décrivant quelqu'un qui avait raison. C'est absurde. Voilà, c'est pour ça. Cette position entre la France et l'Italie reste encore inconciliable, surtout pour la gauche.
Et à l'échelle de cette vie-là aussi. C'est-à-dire que complètement. Dans ce que je comprends de votre récit, il y a quand même cette idée que des États façonnent des individus et peut-être plus qu'une dialectique gauche-droite, une dialectique institution-individu.
Non, c'est vraiment... Non. Alors, aujourd'hui, ça a pris une dialectique gauche-droite. Et c'est assez ridicule. Dans la mesure qu'en fait, à l'époque, c'était quand même une choix politique différente, en fait, qu'elle a été faite. Bien évidemment, François Mitterrand était un socialiste. C'est voilà. Je pense que Chirac n'aura pas pris cette décision. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une question politique. Après, c'est sûr que la gauche française a appuyé cette décision, mais la gauche italienne l'a pas appuyé du tout. Du tout. Et c'est intéressant, c'est comprendre ces deux positions inconciliables. Ça veut dire, moi, par exemple, moi, je suis fille d'un juge, j'ai grandi sous escorte toute ma vie. Je sais pas comment expliquer, j'aimerais bien que les gens comprennent ça aussi. C'est pas, et d'ailleurs, moi, je voulais faire ce film justement pour essayer de comprendre comment un mouvement comme le mouvement du 77, qui est un mouvement politique très fort et magnifique, qu'il y a eu en Italie, plein d'idéaux sublimes, se transforme en violence. Et à la fin provoque une énorme violence, quoi. Et en fait, cette violence prend en otage tout ce qu'il y avait de positif. Voilà, c'était ça ma démarche. En fait, c'est là de comprendre et d'aller explorer qui reste humainement de tout ça. Pourquoi, en fait, nous, les enfants de cette génération, on a été pris en otage. Ça, c'était mon histoire et mon espoir. Voilà.
Oui, oui. Alors, je vous remercie pour ce beau récit de votre film qui nous donne évidemment très envie de le voir. Il est donc diffusé à Annonay ce soir. Quand est-ce qu'il va sortir en salle ?
21 mars, donc par Pyramide Film. Et bon, voilà, j'espère que vous allez le voir.
Alors, juste un dernier mot pour terminer. Vous êtes ici, donc, au Festival International du Premier Film. C'est la première fois que vous venez à Annonay.
Tout à fait.
Quel est le rôle d'un festival ? Vous avez parlé de Cannes, vous êtes allé à la Berlinale, vous êtes allé à Venise. Quel est le rôle d'un festival comme ça, peut-être un petit peu plus petit, un petit peu plus familial? Quel rôle ça joue?
Mais c'est un rôle primordial parce qu'en fait, il y a un rapport direct avec le public. Et en fait, c'est le public à la fin qui va faire qu'un film marche ou pas en salle. C'est-à-dire, on peut aller à Cannes, on peut aller où on veut. À la fin, ça, c'est des professionnels. Parfois, ils disent des choses bien, parfois, ils disent des choses pas bien. Parfois, ils décrètent des choses bien, parfois, ils décrètent des choses pas bien. Mais il y a que le public à la fin. Et le public, il a un rapport plus direct avec le film, plus intime. Et en fait, c'est dans ces festivals-là, et c'est primordial pour moi, tourner la France, pour me confronter avec le public.
Vous êtes passé par plusieurs festivals avant de venir ici. Vous avez déjà présenté ce film. Oui. Quels ont été les contacts, les retours avec les différents publics que vous avez vus ?
Super. Moi, j'ai rencontré un peu tout le monde. J'ai rencontré des étudiants, des retraités, des paysans, des bourges, de tout. Et tout est, voilà, les rapports, chaque public a des intérêts particuliers, mais tout le monde était très intéressé par le débat. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, j'ai trouvé tout le public de ce film très intéressé et très bienveillant, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est la seule chose que je peux te dire.
Alors, on vous souhaite une très belle soirée avec le public annonéen et Ardéchois ce soir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu. Au revoir, Anarita Zambrana.
C'est quoi ce cirque?
Mais c'est le festival.
Quel festival?
Le Festival international du premier film d'Annonay.
Le Festival international du premier film d'Annonay?
Mais oui!
Allez, tous en scène!
On y va!
C'est parti!
En piste!